versets 27 à 39. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ces paroles sont des paroles solennelles. Et même on peut dire qu'il y a une certaine dureté. Quand on les lit, on peut se dire que le Seigneur Jésus va un peu fort. Certains même ont trouvé que c'était un peu exagéré. Et je peux dire aussi une autre chose, c'est qu'il est rare que des pasteurs prêchent sur de tels passages. Parce que ce sont des paroles dures. Et ces paroles sont si dures que même elles arrivent à scandaliser. Mais ne soyez pas scandalisés par les paroles de Christ. Elles sont esprit et vie. Ce qu'il dit est la vérité. C'est la vérité absolue. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à rajouter. C'est ce que Dieu nous a transmis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Et ça fait partie de ce fameux sermon sur la montagne, où il y a eu... C'est même un peu plus loin que le sermon sur la montagne, c'est un peu plus tard. Mais ce sont des paroles de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Alors certains disent, mais c'est pour la fin des temps. Ce n'est pas pour maintenant. Il est vrai que certaines paroles sont pour la fin des temps, mais dans l'évangile de Matthieu. Parce que l'évangile de Matthieu est d'abord adressé aux Juifs, et ensuite aux Juifs des derniers temps. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un enseignement que nous devons recevoir. Et le Seigneur Jésus-Christ est très clair. Et c'est quelques paroles qui nous servent de lumière au travers de tout ce que nous lisons dans ce texte. N'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Est-ce que l'on est digne de Jésus-Christ ou est-ce qu'on n'est pas digne de lui? Et ça, c'est... Alors, modestement, on dit, moi, je suis qu'un petit être humain de rien du tout. Je suis indigne de Christ. Mais cette modestie est malvenue parce que le Seigneur Jésus ne nous autorise pas à la faire. Il nous dit, vous êtes digne de moi ou pas digne de moi. Et nous devons rechercher et chercher absolument à être digne de Christ. Et comment est-on digne de Christ? Mais en suivant ses paroles. Et c'est vrai qu'il y a tout un élagage à faire dans nos vies. Il y a des multitudes de choses inutiles, beaucoup de choses qui prennent notre vie, qui nous séduisent, qui nous trompent et qui sont ce que j'appelle inutiles. C'est pas que vous devez peser si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est inutile. Parce que ça prend de la place dans votre vie. Je connais la chose, hein. Je peux avoir beaucoup de place et vivre sur un mètre carré parce que je peux remplir ma place avec des multitudes de choses inutiles. Et quand on vous dit mais oui, mais ça servira plus tard. Et on prévoit, mais c'est inutile. Et dans notre vie chrétienne, nous pouvons avoir des multitudes de choses inutiles qui nous privent de l'essentiel, qui nous privent de la vraie bénédiction. Nous devons être des voyageurs et des étrangers sur cette terre. C'est est-ce que vous vous sentez un étranger sur la terre? C'est vous savez, je suis né dans un pays éloigné. Je suis pas né en France, je suis né au Maroc. Et je suis toujours un étranger partout où je passe. Même si j'ai la nationalité française, même si j'habite dans mon pays, je suis quand même, j'ai une mentalité d'étranger. Je ne me sens pas chez moi, nulle part, parce que je suis né à l'étranger. Et voilà, c'est comme ça. C'est le et ça ne représente pas pour moi une trop grosse difficulté d'être étranger sur cette terre. Je peux vous dire une chose, je n'ai jamais voté parce que je me suis jamais senti impliqué dans la vie politique de mon pays. Voilà, c'est je suis un étranger. C'est le et je pense que c'est une grâce et une bénédiction que le Seigneur m'a faite de faire de moi un étranger parce que c'est, on doit être sur cette terre, nous en tant que chrétiens, des étrangers. On n'est pas, après vous dites, moi je suis ceci, on a une certaine fierté de notre nationalité, certains. Certains disent, moi je suis, alors comme si notre nationalité, notre pays était le premier du monde. Et je connais des personnes qui, quand elles parlent de leur nationalité, elles en ont une fierté, et, bon. C'est hein, c'est leur orgueil et leur. Il faut pas parler mal de leur pays. Et puis je ne conseille à personne de parler mal du pays de quiconque. Hein. C'est, on est tous différents, les cultures sont différentes, nous sommes une multitude de peuples et c'est une mosaïque de nations, d'ethnies et de diversité. C'est merveilleux. C'est la volonté de Dieu que ce soit comme ça. Et nous devons rendre grâce à Dieu que ce soit tellement différent. Parce que c'est si tout était pareil, eh bien, tout le monde se ressemblait. Ça serait, Dieu aurait manqué d'originalité. Mais il y a une telle différence, une telle disparité, que cela nous encourage à louer le Seigneur. Et donc, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous n'avons pas un lieu qui est à nous. Nous habitons des maisons comme n'en habitant pas. Faisons des multitudes de choses comme ne les faisant pas. Nous jouissons du monde comme n'en jouissons pas. C'est comme n'en jouissant pas. C'est toute une manière d'être, une manière de faire qui est chrétienne. C'est d'être un étranger. Parce que quand nous cultivons cette manière de penser, je suis un étranger sur cette terre. Ce que je possède, je ne le possède pas réellement. Je peux l'avoir aujourd'hui, je peux le perdre demain. Mais si je le perds, je ne perdrai pas ma joie et je ne perdrai pas ma confiance en Dieu. Parce que ces choses-là sont passagères. Et de toute façon, je les perdrai un jour. D'une manière ou d'une autre, je les perdrai. Je me rappelle d'un homme qui était un grand collectionneur. Il avait des livres et des livres et des livres et des médailles et des pièces et des photos. Et il m'avait montré des photos de la guerre 14-18 parce que son père était journaliste et reporter et il était photographe de guerre pendant la guerre 14-18. Alors il m'avait montré des appareils binoculaires envoyés en 3D, hein, déjà. Parce que son appareil photo prenait deux photos avec deux objectifs, si bien qu'il avait une. Hein, il était, alors c'était des monuments, hein, et il en avait trois, quatre, cinq. C'était vraiment extraordinaire, tout en bois, c'était astiqué, et des bois précieux, de l'acajou, il y avait du cuivre, il y avait, hein, etc., etc. Oh là là, c'était précieux. Mais quand cet homme est mort, il a tout laissé. Il les possédait, il allait les voir, il les astiquait, il n'y avait pas un grain de poussière sur tout ça. C'était un grand collectionneur. Toutes ces choses, mais il n'était pas un étranger. Il n'était pas chrétien d'ailleurs. Mais ce n'était pas un étranger sur cette terre. Il était établi sur la terre pour l'éternité. Et les années passaient, et ses cheveux blanchissaient, et ses articulations lui faisaient mal. Mais il n'avait pas dans sa pensée qu'il allait quitter tout ça un jour. Il y était fortement accroché et il allait voir. Et il me disait, tu sais, j'ai des photos de guerre 14-18 que mon père a prises qui ne sont pas encore développées. Alors un jour, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me les développer. Et alors là, mais il était aux portes de l'éternité. et il parlait comme s'il avait encore des siècles à vivre devant lui. Il faisait des projets qu'il allait trouver et il remettait à plus tard. Bon, mais dans 10 ans, je chercherai quelqu'un qui pourra me développer ces fameuses photos. Mais le jour où la mort l'a surpris, eh bien, il était démuni. Il n'était pas prêt. Il est parti sans avoir mis sa vie en règle. Pourtant, je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Oui, il m'a dit, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, hein. Ah là, oui. Ah, ça, oui, c'est vrai que ça remet en question quand même. Hein. Mais parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte que nous ne faisons qu'un passage sur la terre. C'est un jour, il faut rentrer dans l'éternité. Et c'est là que ce que nous avons fait sur cette terre décidera de notre éternité. C'est si vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, si vous êtes réconcilié avec Dieu, la porte de l'éternité s'ouvre pour vous dans la présence de Dieu. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous êtes perdu. La porte de l'éternité s'ouvre sur le jugement et sur l'enfer, sur la damnation éternelle. Je n'aime pas prononcer ces paroles, mais en toute vérité, il faut que je les dise. Parce que nous ne sommes que des étrangers. Alors nous, chrétiens, nous sommes des étrangers, mais vous qui ne l'êtes pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, vous êtes aussi étranger sur cette terre. Parce qu'un jour, eh bien, il faut la quitter et vous allez perdre votre nationalité, tout ça. Ça ne vous servira à rien de l'autre côté. Vous pourrez dire, même moi j'étais français et fier de l'être. Hein. Tous les Français sont sauvés, bien sûr. Hein. Si Satan vient vous dire ça, ne le croyez pas une seule seconde. Hein. Je suis né dans une famille chrétienne. Être né dans une famille chrétienne et être perdu, c'est la même chose. Hein. Si vous n'êtes pas dans la famille chrétienne, né de nouveau et rené, vous êtes perdu. Parce qu'il n'y a que par une nouvelle naissance que l'on entre dans la famille de Dieu et que l'on est sauvé. C'est quelque chose, vous savez, on doit être des sages, de ces personnes qui ont en vue l'éternité. C'est au-delà des pensées. Hein. Nous sommes habitués à mener notre petite vie. On fait des projets. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais aller là et demain, il y aura ceci. Et demain, après-demain, je ferai ça. Et dimanche prochain... Et qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas prévoir la prochaine seconde. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Oh, nous sommes quasiment sûrs de la prochaine seconde ou de la prochaine heure. Mais il y avait des personnes qui étaient quasiment sûres de leur prochaine seconde, et cette seconde, ils n'ont pas eu. Ils ne savaient pas qu'ils vivaient leur dernière seconde. Je me rappelle de cette histoire. C'était un terroriste. Il avait fabriqué une bombe qu'il devait poser à un certain endroit. Alors, c'était toute fabrication artisanale. Hein. Et en général, c'est comme ça. Et alors, il avait même fabriqué le mécanisme d'horlogerie pour retarder le départ de l'explosion. Alors, il remontait, parce que ce n'est pas au moment hein, où on pose la bombe qu'il faut remonter le truc. Il avait remonté, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il avait monté à l'envers. Et quand il remontait, au lieu de s'éloigner de l'heure de sa mort, il s'en rapprochait. Et à chaque tour, il était plus près, jusqu'au moment où il a fait exploser la bombe, en donnant le dernier tour. Et il n'avait pas prévu. Il croyait qu'il était en pleine sécurité, et que sa bombe, eh bien, en la remontant, il éloignait le moment de l'explosion. Et au contraire, il s'en rapprochait. Et cela me fait penser à notre vie. Nous vivons seconde après seconde, et la montre, nous sommes, le compte à rebours est enclenché. Et un jour, eh bien, il faut rendre des comptes. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, mais c'est vrai aussi pour nous. Nous avons l'assurance de notre salut, nous avons l'assurance d'être sauvés, d'être nés de nouveau, d'être réconciliés avec Dieu. Mais un jour, il faut se présenter devant Dieu, il faut rendre des comptes. Que ce soit tôt, que ce soit tard, il faut rendre des comptes un jour. Et ce sera toujours plus trop tôt. Et ce sera toujours plus tôt que vous l'avez prévu. C'est... Et on est toujours surpris par ce moment où on arrive dans l'éternité. C'est rarement des personnes ont dit, moi, ben, je n'ai plus que 5 secondes à vivre, ou je n'ai plus qu'une heure, ou je suis en train de vivre ma dernière semaine. À moins d'avoir une grave maladie où la mort est programmée, eh bien, nous avons du mal à imaginer. Et quelqu'un qui a un certain âge, eh bien, peut dire chaque année, hein, c'est une grâce. Mais quand on a 20 ans, eh bien, oh, je mourrai dans l'autre éternité. Hein. Je me rappelle quand j'étais. Je suis né en 1950, donc vous pouvez très bien calculer mon âge. Et c'est pas difficile. Donc Dieu savait que j'étais pas bon en mathématiques, donc il m'a fait naître pile en milieu d'un siècle. Et quand je disais, au moins, j'aurai 50 ans en l'an 2000. Oui, mais dans l'autre éternité. Et quand j'y suis arrivé, je me suis dit, mais ouh là là, je croyais que ça allait mettre tant de temps. Et puis c'est arrivé tout de suite, hein. Mais nous sommes déjà en 2016. Mais j'ai lu un article sur un programme de satellites, etc., pour 2024. 2024, c'est loin ça. Non, non, c'est demain. Et nous croyons, nous, toujours, que le temps, nous avons le temps. Nous n'avons pas de temps. Le temps est contre nous. Le temps joue contre nous. Nous ne marchons inexorablement vers le jour où nous allons rencontrer Christ face à face. Nous, chrétiens, parce que rencontrer Christ face à face, oh, c'est merveilleux, mais c'est un jugement aussi. Tout ce que nous n'avons pas fait, tout ce que nous avons mal fait, tout ce que nous avons qui a été fait par orgueil, tout ce qui a été fait par souci de hein, matériel, nous avions soif de ces choses. Nous voulions avoir des maisons, des voitures, des situations sociales, des ceci et des cela. Et à ce moment, tout cela est effondré et n'existe plus. Nous sommes devant Christ. Nous le voyons face à face. Et à ce moment-là, toutes ces choses qui nous ont attachés, toutes ces choses qui étaient si importantes, primordiales, qui avaient une valeur absolue, ont une valeur zéro. C'est fini. Nous sommes face à la réalité éternelle. Nous sommes dans la présence de Christ. Et nous le voyons enfin face à face. Enfin, pour certains, malheureusement, ils vont le voir face à face. Parce qu'ils auront honte de leur vie, honte de la manière dont ils se sont comportés. Combien Dieu leur avait donné un capital immense, une vie. Et cette vie, ils l'ont vécue pour leur égoïsme, pour leur recherche personnelle, pour leur ambition, pour leur soif matérielle, pour leur amour du monde. Et pour toutes ces choses. Et nous allons un jour, parce que ce jour va arriver, nous allons voir Christ face à face. Et je peux dire que, au fond de mon cœur, quand je le dis, il y a un tressaillement de joie. Parce que voir mon Sauveur face à face, hein, c'est un cantique que j'aime beaucoup, c'est un de mes cantiques favoris. Voir mon Sauveur face à face. Et je peux vous dire, je l'espère et je l'attends. Et j'aimerais tellement le voir. C'est, je vais vous raconter une petite expérience. Je ne raconte pas facilement, mais enfin, quand je parle de ces choses, je suis assez ému. Hein? Et je suis beaucoup plus quand, après cette petite expérience. Mais un jour, c'était un rêve. Hein? Voilà. Et j'étais, le rêve, c'était une réunion de prière. Voilà. C'est la réunion de prière. Et je me rappelle exactement cette réunion de prière. La salle n'existe plus. Hein? C'est un restaurant maintenant, donc ça n'est, c'est plus d'actualité. Mais on était dans une réunion de prière. C'était les réunions de prière qu'on appelait les réunions de prière pour le réveil. Et ça, c'était mes réunions de prière. Hein? Ah, qu'est-ce que j'aimais être à ces réunions de prière. Et on y était, on priait. On était 4 ou 5, hein? Pas beaucoup. Mais on était là pour prier. Et alors, mon rêve. J'étais dans cette réunion de prière et on était en train de prier. Et il y a un homme qui est arrivé qu'on ne connaissait pas. Il a ouvert la porte et il a crié: Jésus revient! Jésus revient! Et alors, on s'est tous levés et on est sortis. Et on est sortis dans la rue. Et on regardait. Et le doute, le dernier doute est entré dans mon cœur. Est-ce que je vais être enlevé? Et pendant que je me le demandais, j'étais enlevé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'inquiètes de ces choses? Où est Jésus? Et je le cherchais des yeux, et j'allais le voir. Et au moment où j'allais le voir, je me suis réveillé. Ah, la frustration. Je peux vous dire que c'était une frustration. C'est la frustration de ma vie, hein. Vous avez été frustré dans ma petite histoire, mais moi, j'étais bien plus frustré que ça, hein. Parce que voir Christ face à face, voir mon Sauveur face à face, quelle joie, quelle immense joie, le rencontrer, le voir enfin, lui dire « Seigneur Jésus, je t'aimais toute ma vie, j'ai voulu vivre pour toi, j'ai voulu te donner ma vie, je n'ai pas voulu qu'une seule seconde soit vécue pour autre chose, pour une ambition, pour une recherche personnelle, par amour pour l'argent, par amour pour la matière, par amour pour ces choses, non. » Ma vie était vécue pour toi. C'est quelque chose, vous savez. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et quand nous allons le voir face à face, à ce moment-là, la question va se poser, et il va nous poser la question, et il va nous dire, tu n'étais pas digne de moi. Tu n'as pas été digne de moi. Retire-toi. Ne reste pas dans ma présence. Et il y a des chrétiens qui vont être éloignés dans le royaume. Ils ne vont pas se tenir dans la présence de Christ. Parce qu'ils n'ont pas été dignes de Christ. Pas dignes de cette proximité. Mais dans leur vie, ils n'ont pas aimé la proximité de Christ. Vous croyez qu'ils vont aimer la proximité de Christ dans l'éternité? Allons, soyons logiques. Bien sûr, nos cœurs seront changés. Mais on aura ce que l'on mérite. Si vous n'avez pas aimé Christ de tout votre cœur, s'il n'a pas été le bien le plus précieux de votre vie, eh ben vous n'êtes pas digne de lui. Et vous allez être éloigné. C'est logique. C'est logique. Et souvent, on se rassure avec toutes sortes de paroles. Et on se dit, ben je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Tous mes péchés sont effacés. Passé, présent et avenir. Combien de fois j'ai entendu ces choses? C'est vrai. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que Satan dit la vérité aussi. Il ne ment pas. Et il peut vous maintenir dans l'illusion avec la vérité, en vous disant la vérité, et en prenant la vérité, en l'extrapolant, en la mettant dans un autre contexte. C'est vrai que vos péchés passés, présents et à venir sont pardonnés, et que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Mais néanmoins, il y a des récompenses. Est-ce que vous voulez rentrer dans la présence de Dieu par la grande porte, ou quand vous ouvre une petite porte, dit bon, rentre, hein, parce que tu es sauvé, hein, c'est tout. Hein. Vas-y, fais-toi oublier. Peut-être que certains chrétiens vont rentrer comme ça, par une petite porte, à la dérobée, en cachette, dans l'ombre. Ils vont se retrouver parce qu'ils ont eu honte de Christ. Ils ont renié Christ. Ils ont méprisé Christ. Mais ils disent, non, moi, jamais j'ai méprisé Christ. Mais si. Vous n'y avez pas donné l'honneur qui était de la première place dans votre vie. Vous l'avez donc méprisé. Vous avez méprisé sa parole. Vous avez méprisé ses grâces. Vous avez méprisé sa joie. Vous avez méprisé sa paix. Vous avez méprisé la communion fraternelle. Vous n'avez pas recherché ces choses. Vous ne les avez pas mises à la première place. Elles ne vous ont pas. Vous n'étiez pas altéré de la présence de Christ. Pas altéré de la communion avec Christ. Vous n'étiez pas altéré de son amour. Vous n'étiez pas altéré de la communion fraternelle et de toutes ces choses, de ces grâces et ces bénédictions que Dieu avait en réserve pour vous. Alors, vous n'étiez pas digne de Christ. Il va dire, éloignez-vous de moi. Vous n'êtes pas digne de moi. Pas digne de ma présence. Ce sont des paroles dures que je dis, hein. Mais je préfère vous dire ces paroles dures maintenant, plutôt que ce soit Christ qui vous les dise dans l'éternité. Parce qu'à ce moment-là, ce sera trop tard pour se repentir. Tandis que si je vous l'ai dit maintenant, peut-être vous dites, Jean-Alain, tu exagères, tu es dur. Et un jour, un prédicateur est venu me voir et m'a dit, Jean-Alain, quand tu prêches, tu es trop dur. Mais c'est vrai que je préfère être trop dur. Et même dur, tout simplement. Parce que au moins, vous êtes avertis. Je vous parle en frère en Christ. Quelqu'un qui est responsable pour vos vies, qui est responsable pour votre avenir éternel aussi. Si je ne vous dis pas ces choses, si je vous passe des pommades et vous dis « Tout va bien, vos péchés sont pardonnés, passé, présent et à venir, ne vous faites aucun souci. Continuez à vivre votre vie dans le monde. Continuez à vivre dans un compromis, ménageant la communion avec Dieu et la communion avec le monde, en ayant une part d'un côté et une part de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez, on vit au XXIe siècle. Peut-être que du temps des premiers chrétiens, ils n'avaient pas toutes les tentations que nous avons maintenant. Alors, évidemment, c'était plus facile de vivre la vie chrétienne au premier siècle qu'au XXIe siècle. Ce sont des mensonges. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un mensonge. La vie chrétienne était aussi difficile à vivre au premier siècle qu'au deuxième, au dixième, au quinzième ou au XXIe siècle. C'est toujours pareil. Le diable se déchaîne toujours. Il séduit toujours. Il essaye toujours de tromper. Et il utilise toujours les mêmes méthodes. Oh, bien sûr, les vêtements ont changé. Les modes ont changé. Ce ne sont plus des pièces de monnaie de la Rome antique. Ce sont des euros. Mais c'est le nom qui change. Mais l'amour que nous avons pour ces choses, lui, n'a pas changé. Les chrétiens qui aimaient l'argent du temps des Romains et les chrétiens qui aiment l'argent du temps de notre temps, et ce sont des euros, eh bien, c'est toujours l'amour de l'argent. L'amour du monde reste l'amour du monde. C'est ces choses qui n'ont pas rempli le cœur des personnes qui nous ont précédés ne rempliront pas notre cœur aujourd'hui. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Le monde est trompeur, comme il était trompeur du temps des apôtres et des premiers chrétiens. Toutes ces choses, la figure de ce monde change. Mais finalement, tout ça, ça reste la même chose. C'est toujours une immense tromperie. Pour nous chrétiens, quand nous nous laissons séduire, nous nous laissons tromper. Quand nous laissons captiver par toutes ces choses, parce que nous mettons en oubli l'essentiel. Un jour, il faut rendre des comptes. Je me rappelle d'un homme, c'était le frère de quelqu'un qui était dans le groupe de jeunes. Il avait trouvé une place super. Il était garde forestier dans une immense forêt. Et tous les mois, il faisait un certain rapport. Et le rapport, c'était, il y a quelques arbres qui ont une maladie, il faut couper ceci. Et puis, c'est ce qu'on appelle en bon français une planque. C'est-à-dire qu'il gagnait bien sa vie et il n'avait aucun contrôle. Aucun. Mais les rapports, il était chrétien, mais il avouait que les rapports, il allait visiter une semaine, il tournait autour avec ça, parce qu'il avait la Range Rover de la propriété du domaine, et il se promenait là-dedans, il regardait, il faisait ses trucs, il prenait des notes, comme il était ingénieur agronome, et aucun problème, il faisait son truc, puis il envoyait son rapport une fois par mois, et il y a une route qui a des ornières, il y a une... Et voilà, c'était comme ça. C'était aucun contrôle. Mais on fait n'importe quoi. C'est... Dans la vie chrétienne, il y a un contrôle. Un jour, il faut rendre des comptes. Un jour, il y a Dieu. Un jour, il va falloir rendre des comptes. Et à ce moment-là, eh bien, si nous avons été infidèles, si nous n'avons pas été méticuleux, même dans les détails, nous aurons la honte. C'est quelque chose, vous savez. C'est le Dieu, on dit, c'est notre Père, c'est vrai. Mais on ne le trompe pas. Dieu, on ne joue pas avec lui. On ne l'appelle notre Père, mais on n'abuse pas de sa confiance, son amour, parce que Dieu est aussi un juste juge. Et un jour, il doit rendre, quand nous rendrons des comptes, eh bien, il va y avoir un moment de larmes et de tristesse. Je vais vous lire un verset qui me vient à l'esprit. C'est dans l'Épître aux Romains, Alors, on va lire le verset 6, à partir du verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une belle promesse, hein? Si vous ne l'avez pas appris par cœur, apprenez-le par cœur. Mais la suite. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et là, les paroles sont quand même graves, parce qu'il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à des chrétiens. Il dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, serons-nous sauvés de la colère. Parce qu'il y a un moment où nous allons rencontrer Christ face à face, et nous allons rendre des comptes. Et à ce moment-là, il y a des choses que nous n'avons pas faites, que nous avons mal faites, et nous sommes responsables d'avoir fait que certains sont perdus, parce que nous n'avons pas annoncé l'évangile comme il faut. Nous avons été des tièdes, nous avons aimé l'argent, nous avons aimé le monde, nous avons aimé ceci et cela. Nous avons été disqualifiés dans la course, dans le ministère que Dieu nous confiait, et nous avons perdu des occasions. Et Dieu aime les âmes. Il aime ceux que nous avons tellement méprisés et que nous avons rejetés, que nous avons mis de côté parce que nous avons tellement aimé ces choses matérielles et ce monde, etc. Il y a une colère. Il y a un instant où Dieu ne va pas être content de nous. Et Christ va plaider, va dire, j'ai payé pour lui quand même. Mes marques sont là. J'ai payé pour lui. Mais il y a ce moment de colère. Et je dis, faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Faites bien attention à votre vie. Réglez-la scrupuleusement. Ne vivez pas au hasard. Ne vivez pas n'importe comment. Soyez dignes de Christ. Regardez à Christ. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est très important de se souvenir, est-ce que je marche d'une manière qui fait de moi que je suis digne de Christ? Est-ce que Christ est vraiment ma vie? Est-ce que Christ est vraiment ma joie? Est-ce que vraiment Christ est la lumière de ma vie? Est-ce que Christ est celui qui domine dans ma vie, celui qui dirige ma vie, celui qui contrôle ma vie? Si ce n'est pas le cas, si vous aimez plus ceci, plus cela. Le Seigneur Jésus nous parle, celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille, ce sont des amours légitimes. C'est légitime. Mais celui qui aime le monde plus que Christ, qui aime l'argent plus que Christ, qui aime les maisons, les ceci et les cela plus que Christ. Alors là, ce sont des amours illégitimes. Si c'est grave dans des choses légitimes, à plus forte raison dans celles qui ne le sont pas. Alors faites attention. Ce que je vous ai dit ce matin, c'était pour vous mettre en garde. Ne vivez pas n'importe comment. Arrêtez-vous à certains moments. Arrêtez-vous. Est-ce que ma vie est approuvée de Christ? Est-ce que mes décisions, mes choix, mon mode de vie est approuvé par Christ? Est-ce que quand je vais rencontrer Christ face à face, c'est avec joie? Est-ce que j'attends ce moment avec des tressaillements d'allégresse au fond de moi? Quand on me parle de Christ va revenir, un jour je vais rencontrer Christ face à face. Oh, vous savez où vous allez, sans doute, mais est-ce que vous êtes sûr que cet endroit où vous allez, vous êtes allé être accueilli à bras ouverts? Peut-être qu'il y aura des remontrances, il y aura des choses. Ta course n'était pas belle, tu n'as pas vécu pour moi. Tu as vécu dans la débauche, tu as vécu dans la cupidité, qui a vécu dans des choses qui aujourd'hui sont à honte. Tandis que nous pouvons être reçus. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes. Ah, ça c'est quelque chose, vous savez. Je te donne une couronne que personne ne pourra te ravir. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, que d'entrer dans la présence de Dieu avec l'approbation de Dieu. Avec la joie de celui qui rentre en vainqueur, pas en vaincu, qui rentre avec les honneurs, pas par une petite porte. Être digne de Christ. Et ce que je vous encourage, c'est à prier, à chercher le Seigneur, à mettre votre vie en règle, à la mettre devant Dieu. Ne vous laissez pas de repos, parce que ces choses-là sont graves. On peut les prononcer, ce sont des paroles que je prononce, mais la réalité est solennelle. Elle est extrêmement grave. Si vous ne vivez pas comme il le faut, alors il y a un problème. Et réglez-le. Ne laissez pas passer même cette journée sans avoir prié et demandé à Dieu de vous conduire dans le bon chemin. C'est David disait, « Cherche-moi comme une brebis perdue. » Ou dans un autre psaume, il dit, « Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Examine mon chemin, vois, sonde mon cœur et mes pensées. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je crois peut-être marcher comme il faut, mais je ne marche pas. » Et parfois, vous le savez que vous ne marchez pas comme il faut, mais parfois on ne le sait pas, on ne s'est pas rendu compte à quel point on s'est égaré. Mais mettez les choses devant Dieu, soyez dignes de Christ, parce que c'est la plus grande dignité, il n'y a pas mieux que cela. Voilà. Nous allons prier. Notre Dieu, combien nous désirons nous remettre entre tes mains, te demander de conduire toutes choses. Père, nous ne voulons pas vivre notre vie au hasard, nous ne voulons pas vivre d'une manière qui te déplaît. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, sonde nos cœurs, sonde nos vies. Ô Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté nous anime, que nous soyons d'un même cœur, d'une même pensée, pour marcher avec toi, pour revenir à toi s'il est nécessaire, que tu sois honoré et glorifié dans nos vies. Oui, Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te demander d'user de grâce et de miséricorde. Et Seigneur, nous voulons te demander que ton Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice et de jugement s'il le faut, Seigneur, qu'il nous ouvre les yeux sur notre culpabilité, qu'il nous ouvre les yeux sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui n'est pas conforme, ce que tu désapprouves. Ô notre Dieu, que nous ne soyons pas des chrétiens légers et superficiels, mais qu'au contraire nous soyons profonds, que nous soyons des chrétiens qui vivent pour toi, qui marchent dans tes voies, qui font ta volonté, qui ne vivent pas leur vie chrétienne au hasard, mais qui la vivent d'une manière qui te glorifie entièrement. Ô notre Dieu, gloire à ton nom et louange à toi pour tout ce que tu accomplis. Gloire à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.